Hej, då börjar vi.
L'interview du jour.
Global Metal Warming.
Embarquement immédiat dans les interviews du Global Metal Warming. Cette fois-ci, je vous propose d'aller du côté du black metal médiéval, en résumé, avec le groupe français Dark and Old. Nous avons pu en effet nous rencontrer lors du Dark Medieval Fest à Lamure-sur-Azergue en mai dernier. Une chouette interview tranquillement installée au bord de la rivière, en compagnie de Cervantes et Aldébaran, qui nous expliquent un peu tout, l'origine de leurs pseudonymes, leurs inspirations et plus encore. Une interview qui s'était faite en amont de leur concert, qui par ailleurs fut un véritable régal. Pour parcourir un petit peu leur univers musical, mais bien sûr, je vous invite à le faire en écoutant leur dernier album Le Fléau du Rocher en son entier. Vous aurez déjà, là tout de suite maintenant, quelques extraits de celui-ci, comme on aime à le faire dans le Global Metal Warming régulièrement, pour rythmer l'interview, voire même illustrer les propos. Vous plongerez dès le départ dans le titre Le Cortège Royal, ensuite en cœur d'interview, place au morceau L'Ascension du Mage Noir, et pour clôturer cet entretien, le morceau phare, le morceau éponyme au titre de l'album, c'est-à-dire Le Fléau du Rocher. En vous souhaitant un bon voyage avec Cervantes, Aldébaran et Dark and Old de manière générale pour cette interview du Global Metal Warming à retrouver sur Spotify, dans la chaîne Les Interviews du Global Metal Warming et pour la version plus longue avec plus de musique, bien sûr, il y a le format émission à retrouver lui en podcast du côté de Radio Saint-Féréol au radiosaintfé.com. Allez, on n'attend pas plus. Et on commence ce petit voyage dans le temps avec le cortège royal.
We'll be right back.
Au Dark Medieval Fest avec les Darkenhold. Salut à vous.
Salut à toi.
Alors avec Cervantes.
Ouais, Cervantes, c'est moi. Cervantes.
Et Aldébaran.
Aldébaran, bravo.
Pour vos noms de scène.
Ce sont des pseudonymes, ouais. Moi, sinon, c'est Guillaume.
Et Julien.
Et est-ce que je peux vous poser la question d'où viennent les pseudonymes déjà, comme ça, d'emblée?
Alors, moi, c'est un pseudonyme que j'avais déjà dans mon précédent groupe qui s'appelait Artefact. Et alors, c'est un nom qui m'est apparu comme ça en tête, et après je me suis rendu compte que c'était le chevalier du zodiaque du taureau, dans le dessin animé fameux.
C'est pour ça que ça parle.
Mais aussi c'est quand même une étoile dans la constellation du taureau. Hein.
Voilà. Voilà. Et Cervantes, alors ça n'a rien à voir avec l'auteur évidemment de Don Quixote, et, c'est simplement qu'à l'époque je cherchais un nom de scène et j'étais particulièrement fan d'un personnage de jeu vidéo qui s'appelait Cervantes de Léon, et comme Léon est mon nom de famille, effectivement, il y avait une connotation, donc c'était un pirate maudit portant une épée diabolique, et ça me plaisait bien, c'était ma période pirate des Caraïbes, ça me plaisait bien le jeu de mots avec mon nom, je trouvais que Cervantes, ça sonnait bien, et c'est resté. Mais tout le monde pense que c'est par rapport à l'auteur de Don Quixote, pas du tout.
Et en fait, non, c'est induit en erreur.
Voilà, ça vient d'un jeu vidéo.
Vous avez ça fait des beaux personnages, c'est un peu vos personnages dans le groupe.
C'est ça, exactement.
C'est ça.
Voilà, on a tous des pseudonymes, sauf le guitariste Anthony.
Ah, et un résistant.
Ouais, lui, il a résisté jusqu'au bout. Ouais. Mais on a à l'époque.
Anthony reste Anthony.
Alors, à l'époque, c'est le bassiste,
ouais,
qui a aussi son projet à côté qui s'appelle Belloré. On a Abbott à la batterie, et Anthony, donc, à la guitare. Ouais.
Ouais. Et vous êtes tous ces membres-là du groupe depuis le début? Les mêmes?
Alors, au début, on a commencé en trio.
Oui.
Donc j'étais en 2008 encore dans le groupe Artefact. On a sorti 3 albums, on a fait des tournées, on a joué en Allemagne, au Wacken, entre autres. Et donc j'ai voulu faire autre chose. Et c'est Cervantes que je connaissais depuis un moment en fait. Hein, on se connaissait depuis l'année 2000. On partageait déjà beaucoup de points en commun, en musique et tout ça. Donc on a formé ce. Mais tout de suite en fait, on a eu aussi Abbott. Ça s'est fait quasi en même temps. On jouait ensemble dans un groupe qui s'appelait Ethereal. C'était plus du Doom Death, voilà, un peu nostalgique, tout ça. Et voilà, donc Darkenhold est né en 2008, à partir de ce trio. Et ensuite, en 2009, assez rapidement, on a rencontré à l'époque et Anthony, donc qui étaient des connaissances des collègues à l'époque.
Et qui au départ était là plus sur scène, non, c'est ça?
Oui, en fait, le groupe est vraiment construit autour de ce trio de base, qui sommes nous qui enregistrons en studio. Aldébaran fait en studio la guitare, la basse, les claviers, plus les chœurs, moi le chant aussi, et les samples aussi, et le Abbott fait la batterie et moi le chant, et donc Anthony et Alévoque sont là pour la scène, ils n'interviennent pas en studio, vraiment comme ça, c'est un fonctionnement qu'on a toujours eu et qui se maintient ainsi.
Oui, et qui sait, alors vous êtes peut-être plusieurs à le faire, mais qui compose principalement?
Alors la musique est intégralement composée par Aldébaran et les paroles par moi. Ouais. Après on a un mode de fonctionnement qui est quand même bien rodé depuis des années, c'est-à-dire qu'Aldébaran compose la musique, me la propose, Moi, je lui fais des retours sur les structures, sur des choses que je peux imaginer, sur des parties que je verrais s'intégrer. Il a toujours la grande délicatesse et la grande gentillesse d'écouter ce que je lui dis. Et en contrepartie, bien évidemment, il me fait un retour sur mes paroles quand ça ne va pas, voilà. Quand il veut les remanier, quand il y a des textos qui ne lui parlent pas. Et donc, on essaye de s'écouter avec le bien commun supérieur qui est celui de Dark Knold.
Oui. Et oui, ça peut être toujours simple de s'accorder aussi.
Bah, en fait, c'est surtout auprès de la Vouivre, qui est l'entité supérieure qui nous regarde et qui nous juge. Donc c'est elle qui a le dernier résultat, le dernier verdict, ouais. Plutôt.
Ouais. On cherchait depuis le début à avoir une espèce d'animal emblématique. Et on a trouvé celui-ci. D'ailleurs, on pensait au début appeler le groupe Viverne, mais c'était déjà pris par une quinzaine de formations différentes.
Ah ouais.
Voilà, donc on a laissé tomber. Mais la Vouivre nous est restée. Elle est là depuis le début, depuis le premier logo. Hein. Et elle apparaît sur chaque album. Chaque album a au moins un morceau qui lui est dédié.
Ah oui.
Même Memoria Silvarum, elle est bien cachée. Ça n'apparaît pas dans le titre de la chanson, mais elle est quand même bien cachée dans un des morceaux. Mais elle est sur tous les albums.
Et on la retrouve en visuel, et donc oui. Vous en parlez aussi.
Enfin, bien sûr.
Elle chante à son sujet.
Oui, bien sûr. On a, c'est une figure qui fait partie un peu du folklore français,
ouais.
Et qu'on a adapté pour notre univers à nous.
Et tu peux nous la décrire un petit peu, justement ?
Alors, la Vouivre, techniquement, on fait la différence entre une Vouivre et un dragon. Les dragons ont des pattes avant et arrière. Mmh. La Vouivre n'a pas de pattes avant, ce sont les ailes. Et d'ailleurs, techniquement, les dragons de Game of Thrones sont des Vouivres, hein, parce qu'ils n'ont pas de pattes avant. Ah. Mais bon, ça, on ne peut pas le
savoir. Il y a un scoop là.
Voilà.
Ouais, y a un scoop,
mais techniquement, a priori, ce sont des Vouivres. Mais la Vouivre, d'accord. C'est aussi une créature mythologique, que ce serait une femme portant une escarboucle sur le front, donc un diamant, un joyau rouge étincelant. Qu'elle dissimule et qui lui permet notamment de se transformer en serpent d'eau, etc., ou en dragon, effectivement, enfin en Vouivre selon les différents mythes. Et donc, on a toujours associé, c'est pour ça que la question de l'escarboucle, de créatures souterraines, se dissimulant dans des cavernes, fait partie de l'univers de Dark Knold. Et elle est beaucoup plus au centre du dernier album, Le Fléau du Rocher, où elle est un des protagonistes, puisque dans l'histoire, c'est une sorcière métamorphe qui se transforme en Vouivre, dans le dernier album, dans Le Fléau du Rocher.
Dans Le Fléau du Rocher, mais cet album n'est pas consacré à elle.
Elle fait partie, c'est un des personnages principaux. Ouais, c'est un des personnages principaux, parce qu'il y a plusieurs personnages principaux,
oui.
Le mage noir, le fils du roi, et la Vouivre et le troubadour. Donc c'est les quatre personnages principaux qui constituent l'articulation de l'histoire.
C'est tout un monde, cet album.
Alors oui, c'est une histoire en elle-même, mais qui reprend les grands classiques et les bases de Dark Knold. Dans tous les albums Dark Knold, il est question de tours, de sorcellerie, de secrets magiques, d'artefacts, de Gvu Grimoire. C'est notre univers depuis le début. Mm-hmm. Et on les a condensés dans un album qui rassemble aussi une histoire autour de ça.
Oui, et tu chantes principalement en français.
Oui, depuis trois albums. Les deux premiers albums sont en anglais, exclusivement.
Oui, il y a eu un peu des deux.
Castellum fait la navette entre les deux langues. Et à partir de Memoria Silvarum, et donc après Arcane et Sortilège et Le Fléau du Rocher, sont intégralement en français.
Ok. Castellum, ça me fait simplement penser qu'on peut quand même voir, rien qu'avec vos visuels, que les châteaux
oui.
ont une place importante dans votre univers. Oui,
bah déjà
les
dans
ruines,
le logo.
J'allais dire aussi.
Oui,
les
ruines, les châteaux, tous les monuments historiques, ouais. L'histoire, le passé. Le logo, en fait. Hein. Vous pouvez déjà trouver un château sur le logo. Et. En fait, c'est pas forcément quelque chose de préparé, de conçu comme ça. Voilà, c'est juste des univers qu'on aime bien, qu'on apprécie et qu'on aime retrouver dans l'imaginaire de Dark Knold.
C'est ce qui vous inspire,
oui.
Entre autres.
Les forêts, les châteaux.
Ouais.
Bah, c'est l'endroit où on va chercher notre inspiration. C'est des endroits où on aime randonner, se promener, puisque la Côte d'Azur d'où nous venons est érigé de multiples traces médiévales, hein, des ruines, des vieux châteaux, parfois encore en bon état, certains encore habités. Hein, le château de Villeneuve-Loubet, qui est au centre de l'univers de Dark Knold et qui apparaît sur certains visuels, est un château qui existe encore aujourd'hui, hein, qui date du XIIIe siècle et qui est encore habité aujourd'hui par le comte de Provence. Voilà, c'est une vieille lignée. Et qui...
Eh oui, pour le coup, celui-ci n'est pas une ruine.
C'est pas une ruine, celui-là.
C'est une différente atmosphère, mais c'est vrai ça. Que c'est intéressant de voir ceux qui ont une vie prolongée un petit
exactement.
Peu comme ça.
Mais je trouve que les ruines ont quelque chose de spécial aussi par rapport au château bien conservé. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses, je trouve, à travers les ruines. Et c'est assez 19e siècle, hein, les ruines au 19e siècle, c'était Victor Hugo, tout ça, dessinait souvent les ruines. Ça appelle vraiment l'imaginaire, je trouve, les ruines. On peut s'imaginer beaucoup de choses.
Oui, on peut imaginer tout ce qui a pu se passer là. Il y a un côté un peu mystique.
Ouais, oui, il y a un côté mystique. Il y a aussi des réflexions sur le temps qui passe, sur la mémoire, sur les traces, sur la survivance aussi malgré tout. Hein. On peut voir la force de la nature qui les recouvre petit à petit, la modernité qui se construit tout alentour, et pourtant elles sont encore là. Même si elles sont branlantes, même si parfois elles sont qu'à traces, que ce sont que des traces résiduelles, mais elles sont aussi la preuve d'un passé qui refuse de s'éteindre complètement. Et nous, on essaye d'en restituer quelque chose, même si le propos du groupe n'est pas historique. On puise dans l'histoire et on la prend et on la remodèle avec un univers médiéval fantastique pour dépasser l'histoire et parler à tout le monde. Mais voilà, Dark Knoll, beaucoup de morceaux sont imprégnés de patrimoine local essentiellement.
Oui, ça vous inspire en grande partie.
Oui.
d'Arcanol, je vous ai demandé juste avant, mais ce n'est pas, moi, sur le coup, j'avais pensé qu'il y avait peut-être un... que c'était scandinave.
Eh oui.
En fait, pas spécialement.
Non, pas du tout. En fait, le mot d'Arkenold, bon, maintenant, c'est pas un secret, hein, puisque c'est facilement trouvable, vient d'un morceau d'un groupe anglais que moi, j'adore particulièrement. Aldébaran l'aime aussi, un groupe qui s'appelle Balsagoth, dans lequel d'Arkenold est une forêt particulière. Et à l'époque, j'avais contacté le chanteur en disant « J'aimerais prendre ce mot pour donner le nom de notre groupe, mais est-ce qu'on a le droit ?» Et comme il très gentiment demandait de modifier quelque chose, parce que le nom était protégé par ses soins, parce qu'il avait projet de quelque chose autour de ça, et donc on a rajouté le tréma, mais qu'on ne prononce pas, nous. Il est purement visuel, mais c'est vrai que si on devait le prononcer, ce serait Darkenold. Mais nous, on dit toujours Darkenold, et
oui.
Voilà, c'est juste pour la forme.
Ça donne ce petit côté scandinave qui pourrait aussi faire penser à certains groupes scandinaves de black metal qui peut-être vous influencent ou vous ont plu.
Bah, c'est
ils
sûr
vous
que
plaisent
quand,
toujours.
Quand on parle de black metal, on imagine quand même beaucoup les pays scandinaves. Hein. Hormis Venom, bon, qui est quand même au nord de l'Angleterre, donc déjà il fait quand même assez froid. Mais Bathory, voilà, les premiers. Celtic Frost qui est plus en Suisse, mais voilà, c'est quand même dans des pays où il y a un peu de neige. Et bon, bien sûr, Satyricon, Emperor, les premiers Dimmu, Dimmu Borgir. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les groupes qui nous ont inspirés?
Pas mal. C'est vrai que ça, c'est un peu la base, un peu le triumvirat. Mais après, on pourra voir aussi dans les deux groupes GNA, certains passages d'Immortal. On peut aller chercher aussi un peu plus en Europe, en Autriche, à Bigorre, Mephistopheles pour l'Allemagne. Enfin, on a en fait un réseau effectivement assez étendu. En Suède, on a Dissection, Sacramentum, Dark Funeral éventuellement, ou même Throne of Ass. Enfin, il y a plein de vieux groupes. Nous, vraiment, Darkenold, c'est un héritier de la tradition du black metal des années 90, essentiellement 91, 98, 99 éventuellement. Après, on entre dans une démocratisation et une approche du black metal qui commence à s'hybrider avec plein d'autres styles et qui correspond un peu moins. Nous, on est vraiment dans les premières années d'origine. Et notre inspiration, effectivement, elle est norvégienne. Pour autant, ce ne sont pas des paysages qui nous ont inspirés, puisque nous, on n'a pas. On vient du sud de la France, la neige, c'est quand même quelque chose, à moins d'aller très haut dans les montagnes.
Et de plus en plus rare.
Voilà, c'est moins ombre.
Voilà, ça ne fait pas partie de notre environnement direct, donc notre son ne peut pas coller à cette froideur et à ce côté très ténébreux des forêts scandinaves. Mais voilà, on a quand même de quoi nous inspirer avec des paysages particulièrement sauvages. Comme je dis toujours, à une heure de la Côte d'Azur, enfin du bord de mer, on est dans les montagnes et on peut aller chercher des endroits où moi j'ai été randonné qui n'ont jamais été habités par l'homme, toute histoire. Enfin, personne n'a jamais été là. Donc c'est vraiment extrêmement sauvage et donc on peut y puiser quand même l'inspiration pour créer quelque chose qui respecte aussi l'origine du black metal.
Et c'est des endroits qu'on connaît un petit peu moins aussi peut-être.
Oui.
Je ne sais pas si c'est très fréquenté. Mais...
La Côte d'Azur, si.
La Côte d'Azur, voilà. Oui, mais ces endroits-là.
Oui, parce que c'est beaucoup situé dans le Mercantour.
Moyen pays, Mercantour. Ouais. Après, il y a un endroit un peu spécial dont on parle dans le dernier album, là, le Fléau du Rocher. C'est Roca Spaviera.
Spaviera.
Voilà, c'est, donc, on retrouve dans une chanson qui s'appelle La Cavalerie Fantôme. Et voilà, donc c'est un lieu assez très particulier avec une histoire assez ancienne. Avec des phénomènes en fait qui se seraient passés dans ce coin-là, notamment avec une cavalerie fantôme, notamment avec une reine un peu maudite, voilà, qui a eu en tout cas des soucis. Ouais. Et donc voilà, c'est un lieu assez à la fois sauvage et avec un mystère. Avec, voilà,
le vent se lève. Tu as mal parlé de la reine. Elle se venge. Voilà, elle fait souffler un vent
diabolique.
Qu'est-ce
qu'elle a eu cette reine? Moi, ça m'intrigue.
Cette reine, c'est la reine Jeanne. C'est un personnage assez connu du côté du sud-est et de la Provence de manière générale. C'est un personnage à la fois un peu légendaire et en même temps qui a existé. Mais il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour d'elle qui ne sont pas forcément fondées. Et il y aurait donc une légende qui voudrait qu'elle soit le soir de Noël, elle soit descendue de Roca Spaviera, donc qui se traduit par le rocher des éperviers, pour aller dîner à Quaras, qui est un village de l'arrière-pays niçois. Et en remontant, elle aurait trouvé, selon les légendes, ses enfants morts, voire ne sachant pas qu'ils étaient morts, mais qui a été cuisinés, elle les aurait mangés. Et pour se venger de cette traîtrise qui aurait été fomentée à son endroit, elle aurait maudit le village, effectivement. Et dans l'histoire, ce village a été frappé de nombreuses calamités qui ont fait qu'il a été déserté petit à petit. Aujourd'hui, il n'en subsiste que des ruines. Et c'est un endroit qui est extrêmement fascinant, qui est très chargé en énergie, très imprégné. Et moi, dès que je l'ai visité, c'est un village qui m'a profondément marqué. Et j'étais sûr qu'on en ferait au moins une chanson. Et bien, finalement, on en a fait un album autour de ça.
Oui, une grande inspiration et grande histoire quand même.
Oui, oui. Là, on s'inspire de l'histoire un petit peu, mais après, le but, c'est de la remanier à notre sauce,
ouais,
pour en faire une création un peu héroïque fantasy, très immersive, très onirique. Le but, encore une fois, c'est pas de faire un ouvrage historiquement fiable.
Oui.
C'est pas l'objectif.
C'est un peu romancé, entre
voilà.
guillemets.
Mmh. Voilà, on puise dans l'histoire pour faire quelque chose qui puisse parler à tout le monde et qui embarque l'imaginaire des
ouais.
personnes qui nous écoutent.
C'est pour ça qu'on vous rattache aussi à l'univers médiéval.
Exactement.
Ouais. Ouais. Et à la nature, comme on en parlait
oui.
tout à l'heure, c'est aussi
bien sûr.
Beaucoup de... Dans le monde du métal, souvent, on retrouve des thématiques sur la nature.
Oui, oui c'est assez récurrent.
Ou voilà, on est proche de la nature.
On a même composé un album entier sur la forêt, Memoria Silvarum, mm. qui est vraiment inspiré des marches, des balades en forêt. Voilà. Donc c'est, voilà. En général, la thématique d'Arkenold, c'est quand même beaucoup le Moyen-Âge, avec... ça peut être des batailles, ça peut être la sorcellerie, ça peut être plein de choses, mais voilà, là, c'est, sur cet album, c'est la forêt. Voilà. Mais ouais. dans chaque album, on retrouve aussi des ambiances assez comme ça, assez païennes, forestières.
Oui, c'est vrai, païen, on l'a pas dit, mais effectivement,
mm.
il y a de ça aussi.
Il peut y avoir, oui, ouais, bien sûr. Mm. Oui, on n'est pas un groupe porté sur la religion, que ce soit d'un côté ou de l'autre,
oui.
quoi, entre guillemets, sataniste ou,
oui.
ou chrétien, ça existe aussi hein, dans le métal.
Tout à fait.
Mais voilà, on n'a pas cet ancrage-là, même si, bien sûr, au Moyen-Âge, c'était très important. Et toute musique, normalement, voilà, en général, se référait beaucoup, souvent à Dieu ou à l'art en général. Nous, on est un peu déconnectés de ça dans Darkenold, par contre.
Oui, c'est plus par rapport à la nature.
Voilà, oui.
Et j'avais lu également, ça se rapproche de ce que vous me dites, que vous essayez, d'ailleurs c'est ce que vous faites, de faire un black metal le plus épuré possible.
Oui, alors l'objectif pour nous, c'est surtout une approche très authentique, assez artisanale et brute. C'est-à-dire que même si notre black metal est quand même travaillé, Aldébaran est capable, il le démontre dans ses vidéos, puisqu'il a une chaîne YouTube à haut succès où il fait des démonstrations de guitare, des partitions, des solos qui vont du jazz jusqu'à la pop et au black metal.
Oui.
Donc Aldébaran est capable de sortir des solos d'Yngwie Malmsteen, pour ceux qui connaissent, oui. sans grande difficulté, mais si ça le fait travailler. Pour autant, voilà, c'est pas de la démonstration, c'est pas le but. Le but, c'est de retranscrire une certaine atmosphère. Et pour ça, la technique, elle est pas primordiale. Le but, c'est de transmettre une authenticité dans l'approche, dans le son. Donc c'est épuré dans le sens où on cherche à retransmettre des émotions et on essaye d'avoir une approche notamment du son, du paysage sonore qu'on crée, qui soit brut, encore une fois, naturel. Pas quelque chose qui est trop rutilant, trop chromé, trop lissé.
Trop arrangé,
voilà, mais... beaucoup de groupes mmh. aujourd'hui essayent de présenter leur musique de manière la plus audible possible pour toucher un large public. Nous, c'est une façon pour nous de perdre l'essence du groupe. Je ne dis pas qu'on veut sonner comme dans une cave, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre approche, mais on essaye de trouver un juste équilibre entre cette approche du son qui est quand même très affirmée et quelque chose quand même qui reste audible pour le plus grand nombre. Et voilà, c'est cet équilibre difficile à trouver.
Ouais, ça ne doit pas être simple.
Non, c'est jamais simple, les mixages d'Arkenold. Puis il y a quand même beaucoup d'éléments, mine de rien, entre les guitares électriques, acoustiques, les chœurs, les arrangements de synthé, les samples. Bon, et puis la batterie, c'est toujours une partie difficile à mixer, parce qu'elle est quand même assez virtuose, la batterie d'Abbott. Voilà, et puis on essaye, notamment dans le dernier album, il y a un parti pris assez risqué. Donc notamment ce son assez boisé, assez acoustique de la batterie, qui est assez pur quand même relativement. Et puis bon, pour le reste, ben, on fait ça un peu nous-mêmes avec nos moyens, avec nos connaissances qui ne sont pas toujours parfaites. Mais voilà, ça, on a peur de perdre un peu de nous-mêmes en fait, en allant dans un studio très professionnel, mais qui ne va peut-être pas garder tout ce qu'on veut en fait. Il va peut-être faire les choses mieux que nous, ça c'est très probable.
Ouais, mais ce serait peut-être moins... Il n'y aurait pas l'essence de base.
Voilà, ouais. On
toute cette émotion à vous parler.
Voilà, en fait, on préfère que ce soit imparfait, mais au moins, bah voilà, peut-être, c'est au moins, ça reste proche de nous-mêmes.
Ouais. C'est plus vrai peut-être.
Voilà. Oui, le but effectivement, c'est de faire ressentir l'humanité, qu'il y a des musiciens derrière, qu'avec voilà, des approximations, des coups de batterie qui ne sont pas tous les mêmes. Tout n'est pas trigué, tout n'est pas lissé, tout n'est pas régulé, même si bien évidemment, comme tous les groupes, on fait appel à ça pour corriger certaines erreurs. Mais globalement, voilà, on veut pouvoir retranscrire sur scène ce qu'on fait en studio, et effectivement, chacun y va avec sa patte. Hein, notre batteur, effectivement, comme le disait Aldébaran, Abbott, c'est à la base un batteur qui vient du progressif, donc il amène cette touche un peu technique dans des plans qui amènent aussi cette couleur particulière à Darkenhold, qui fait que voilà, parfois il y a des côtés un peu imprévisibles. Mais ça fait pour nous le charme de la formation. Voilà. En tout cas, les gens qui nous écoutent savent pourquoi ils nous écoutent, et je pense qu'on n'est pas un groupe de mode. C'est pas un groupe qu'on va écouter par mode, parce que c'est un moment mis un peu en avant par un label. Nous, on a d'ailleurs des gens qui nous suivent depuis très longtemps, qui sont fidèles, et c'est un honneur pour nous.
Aujourd'hui, vous êtes au Dark Medieval Fest, mais vous avez pas mal d'autres dates prévues à venir. Oui. J'en ai vu quelques-unes, là, comme ça, je ne me rappelle plus. Si on veut vous retrouver dans les temps à venir, vous en avez une ou deux en tête ?
Oui, prochainement, on a une date en Italie, dans la région de Milan. Ça, c'est au Slaughter Club. C'est Unholy Dungeon, c'est une soirée. On est dans la thématique, je crois.
Totalement.
Alors, et c'est pas fini parce que on va jouer à Nice au Victory Fest le 22 mai, Et on va clôturer le mois de mai par une date au Royaume-Uni, donc c'est la première fois. Alors le festival, ça porte bien son nom, c'est le Fortress Festival. Donc on est cohérent, je pense, pour l'instant.
Voilà. Et vous voyagez pas mal.
C'est toujours un plaisir en fait de se retrouver et puis de partir ensemble. Après on se retrouve aussi parfois dans les Burger King de l'autoroute. C'est un peu moins médiéval.
Voilà. Là on est un peu moins dans le thème, mais ça fait partie de la vie en tournée aussi.
Et oui, forcément, il n'y a pas toujours le choix. Il y a toujours une ruine qui traîne.
Voilà, c'est compliqué. La ruine de notre indice calorique peut-être dans ces cas-là.
Oui, c'est ça.
Mais oui, là c'est les dates. Après on a deux qu'on espère pouvoir annoncer bientôt. C'est pas encore officiel, donc on peut pas vraiment le dire. Mais on en a une peut-être en juillet, on verra, et peut-être une en octobre.
C'est à
guetter, voilà.
On va pas le dire là tout de suite.
Pas encore.
Avant de vous laisser peut-être, parce que le temps passe vite, je me posais la question de qui fait vos visuels sur les albums.
C'est ma mère.
C'est l'auteur de l'auteur.
L'auteur de l'auteur.
Voilà, Claudine Vrac, elle fait de la peinture en amateur. Mais souvent j'ai une vision assez précise, un peu contraignante d'ailleurs, où je fais un croquis avec vraiment l'image de la pochette que j'ai en tête. Et elle fait des essais, ça passe par plusieurs essais, tout ça, et on arrive à un résultat. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était, toujours pareil, dans la démarche de l'honnêteté, on va dire, artistique. On fait avec nos moyens, et à la main, avec la peinture à l'huile. Donc, ce sont des peintures à l'huile, il n'y a pas d'intelligence artificielle.
Ça fait du bien.
Voilà, ça change un peu en ce moment. Et donc depuis le début, en fait depuis le premier album, et on garde une constance, donc c'est toujours ma mère qui fait les peintures sur chaque album. Donc ça fait 6 albums déjà.
Très belle.
Une hexalogie, on appelle ça, je crois.
7, puisque Castellum a eu une deuxième
prochaine. Oui, elle suit bien depuis.
Donc
le début.
On a 7 peintures de Claudine, effectivement.
Super.
Toujours des pochettes avec beaucoup d'atmosphère. Quelques couleurs, elles sont quand même parfois colorées. On n'est pas toujours dans le black metal non plus, puriste non plus. Dark Annals, c'est quand même un groupe avec le son qui lui est propre. On ne cherche pas non plus à rester, même s'il y a le black metal norvégien, mais quelque part, je pense qu'on fait un peu à notre sauce ce style-là, avec notamment des petits solos de temps en temps. Il y a du chant français, des chœurs.
Ça fait sourire les petits solos.
Oui, parce que je le tanne littéralement, je pense, depuis le premier album pour qu'il fasse des solos. Et il a fini, je pense, de guerre lasse par abandonner. Et sur Arcane et Sortilège, il y a quasiment un solo par morceau. Donc, et je crois que ça l'a un peu dégoûté. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'Aldébaran a un niveau technique très élevé, qu'on voit rarement dans le black metal. Et c'était dommage de ne pas en tirer profit, même si le black metal ne se construit pas sur des solos. Mais il y avait moyen d'en faire quelque chose, et je trouve qu'il s'en est très bien tiré. Il a réussi à composer des solos qui ne dénaturent pas la thématique du style, tout en montrant aussi un peu des racines différentes. Yngwie Malmsteen, Europe, Deep Purple, enfin je sais pas, c'est ses influences à lui plutôt.
Je vais pas faire la liste de tous les guitaristes, sinon on n'aura pas le temps, je pense.
Sinon, après vous allez devoir jouer en plus quand même.
Voilà,
tout à l'heure. Vous jouez dans une heure à peu près.
On joue à 21h50.
Ouais, je vais peut-être vous laisser manger. Je crois que vous n'avez pas tous les deux mangé.
Non, on va aller manger.
En tout cas, je vous remercie pour ce moment.
Merci à toi. Ça t'a intéressé au groupe.
C'est un plaisir. Et au plaisir de vous écouter tout à l'heure.
Ah ben parfait.
En live. Voilà. Parfait. À la prochaine. À tout de suite même.
À tout à l'heure.
Merci.
Global Metal Warming. Global Metal Warming. Global Metal Warming.